Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens vivre ma vie sur la radio Queerazio. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois intime, douloureux, mais profondément humain. Le deuil, et plus particulièrement la perte d'une ou d'un partenaire, quand on fait partie de la communauté LGBTQIA+. On sait à quel point ces expériences sont parfois invisibilisées, mal comprises ou entourées de silence, et pourtant, elles méritent d'être entendues. Merci à toi d'être là aujourd'hui pour partager ton histoire, Alexis.
Merci à toi.
On va avancer à ton rythme avec bienveillance pour permettre à ta parole d'exister, tout simplement. Alors pour commencer, j'aimerais que tu puisses nous parler de la personne que tu as perdue. Est-ce que tu peux nous dire qui il était pour toi, ce qu'il représentait dans ta vie ?
Bien, la personne que j'ai perdue s'appelait Victor. On était en couple depuis plus de 7 ans. On s'était rencontrés à la fac, dans un cours qu'on avait en commun. Voilà, notre relation, c'était une relation de couple, hein, très intime, je ne sais pas quoi dire d'autre, relation exclusive, monogame.
Et donc vous viviez ensemble, vous
partagez... Oui, on vivait ensemble, effectivement, on vivait ensemble dans un appartement à Belleville pendant toute la durée de nos études et puis jusqu'à notre entrée dans la vie active.
Et alors, quels souvenirs te viennent quand tu penses à lui ? Est-ce que tu as une anecdote, un moment que tu as partagé ?
J'ai que des bons souvenirs quand je repense à lui. C'était une personne très intéressante avec qui on pouvait aborder tous les sujets. L'anecdote que je pourrais raconter, c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand je l'ai rencontré. C'était vraiment, de mon côté, un vrai coup de foudre. C'était évident de se mettre ensemble. Et puis j'ai appris. Après, en parlant avec lui, que c'était pareil, c'était évident aussi. Et puis, je crois que ça a été un peu le maître mot de notre relation. C'était vraiment évident.
Alors, passer du souvenir au manque, du présent à l'absence, c'est un chemin très dur, souvent solitaire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as appris la nouvelle ?
Oui, alors, j'ai appris la nouvelle. Alors, la nouvelle de son décès... Peut-être déjà que je remette un peu les bases de pourquoi il est décédé et comment, dans quelles conditions. Alors Victor est décédé d'une encéphalomyélite aiguë disséminée. Donc c'est une maladie orpheline qui s'est déclenchée sans signe avant-coureur. C'est-à-dire que il était en parfaite santé. Quelques jours avant son hospitalisation, il se sentait pas très bien. Fatigué, un peu désorienté. Et puis, la veille du jour où je l'ai emmené à l'hôpital, c'était vraiment pire que tout. Il était vraiment pas bien, très, très, très désorienté. Donc, je l'ai amené aux urgences. Et puis, il n'est jamais ressorti de l'hôpital. Son hospitalisation a duré 4 mois. Cinq jours après son hospitalisation, il a été placé en état végétatif permanent à cause de la maladie qui s'était vraiment propagée très 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 vite. Quand j'ai appris l'annonce de la fin de sa vie, c'était la chef du service de réanimation neurologique qui nous a dit que il y avait au bout de 4 mois de médication à base de plasma phérèse, donc échange de plasma, début de mini-chimiothérapie pour essayer d'éradiquer la maladie, il n'y avait plus rien à faire, donc ils décidaient d'arrêter les soins. Donc je l'ai appris de cette façon-là. Moi, c'est vrai qu'il a été en état végétatif permanent pendant 4 mois, donc on voyait bien qu'il ne réagissait plus à rien et tout ça, donc j'ai quand même eu le temps de me faire à cette idée que c'était terminé. Donc l'annonce de l'arrêt de sa vie a été forcément un choc, mais je m'y attendais.
Alors qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les jours ou les semaines qui ont suivi ?
Alors vraiment, ce qui a vraiment été difficile, c'est le soir de la fin de ses soins, parce que j'étais avec lui dans la chambre, et puis j'ai senti son corps se refroidir quand je lui faisais des câlins, et ça m'a vraiment vraiment perturbé. Je pense que c'est encore un point qui, même après quelques années, quand j'y repense, ça me met pas à l'aise. Et je pense que c'est ça qui a été vraiment le plus difficile, c'est vraiment de sentir la vie qui s'échappe d'un corps. Ça c'est marquant.
Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti particulièrement seul ou au contraire où tu as été entouré ?
J'ai été très bien entouré par mes amis et ma famille, et puis aussi la famille de Victor. On a toujours été ensemble pendant tous les mois de son hospitalisation. Alors on me dit que c'est un peu une erreur. J'ai pas fait le choix d'être suivi psychologiquement par un professionnel de santé, mais j'estimais que j'étais déjà bien assez entouré par mes amis. On a pu discuter de plein de choses, de plein de sujets différents, sur le rapport à la vie, le rapport à la mort, la place qu'occupe une personne décédée, en fait, parce que finalement on se rend compte que c'est pas ce qui devient le plus important, c'est notre rapport à cette personne là parce que la personne devient une sorte d'entité fixe, si je peux dire. Donc elle n'évolue plus. Donc c'est vraiment à nous qui vivons un deuil d'évoluer sur ce sujet-là, parce que la personne en face ne peut plus. Donc j'ai pu débattre de ça avec tous mes amis, tous ses amis. Et ça, c'était vraiment très important à faire, et c'est ce qui permet, je pense, d'avancer sur beaucoup, beaucoup de questions.
Alors, le deuil est déjà une épreuve, mais pour les personnes LGBTQIA+, il y a parfois une forme d'invisibilité ou de non-droit à exister dans la peine. Est-ce que tu as eu l'impression, en tant que personne queer, que tu n'avais pas toute ta place dans ce deuil ?
Oui. J'ai pu parler avec des personnes qui avaient vécu un deuil aussi. Alors, on essaye un peu de trouver des points communs. Enfin, j'ai essayé en tout cas de trouver des points communs avec des personnes qui vivaient le deuil. Ça a souvent été des personnes qui n'étaient pas queer ou pas, enfin, qui étaient plutôt hétéro et beaucoup plus vieilles, en fait, beaucoup plus vieilles que moi. Parce que oui, Victor est décédé à 28 ans. On avait le même âge. Et j'ai eu du mal à trouver des personnes dans le même schéma que moi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça aurait été bien aussi d'avoir un vrai miroir, en fait, parce que sur des questions, sur le fait avant 30 ans, on est toujours en train d'évoluer, on n'est pas forcément encore posé sur plein de choses, donc on était en train de construire quelque chose à deux, donc ces questions-là sont vachement remises en question. Moi, ce que j'ai pu trouver, c'était plutôt des discours de personnes qui étaient déjà bien en place dans leur vie avec leur compagnon ou leur compagne. Donc c'est vrai que j'ai pas trouvé trop de résonance là-dessus. J'ai trouvé plutôt une bienveillance dans les discours de personnes hétéros qui avaient plus un désir de d'aider et de soigner. Et c'est vrai que dans le milieu queer ou le milieu gay, c'était un peu plus... J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient clairement peur, en fait, dès que j'en parlais. C'était quelque chose de tabou. Je sentais que c'était un sujet qu'il fallait pas trop aborder, parce que je voyais de la peur dans les yeux des autres.
Donc, est-ce qu'on t'a dit aussi des choses qui t'ont blessé, ou au contraire des mots qui t'ont fait du bien ?
Des choses qui m'ont blessé ? Non, pas vraiment. Je pense que, en fait, c'est plutôt, enfin, c'est pas des mots qui m'ont blessé. C'est vraiment plutôt des réactions, les réactions de mes pères, en fait, où je sentais qu'il y avait un désintéressement, quoi, total. Si j'abordais le sujet, je sentais qu'il y avait, un désintérêt presque immédiat, en fait, comme si j'étais cassé et que c'était plus possible de faire quelque chose avec moi, quoi. Et après des paroles, j'en ai eu plein hyper bienveillantes. C'est sûr que il y a les phrases un peu bateau, mais qui finalement font du bien avec le recul, quand on nous dit que le temps fera son œuvre, que il faut prendre son temps, que il faut pas se presser sur ces questions-là, et que c'est le temps qui guérira. Alors c'est maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est vrai. Alors je sais pas si on peut dire qu'on guérit, c'est juste plutôt qu'on cicatrise. Moi je pense très très souvent à ça, mais pas forcément beaucoup moins de façon négative, quoi. Donc c'est toujours présent, mais ça c'est vrai que le temps fait son œuvre, effectivement.
Et donc, quand tu rencontrais des personnes, du coup, tu t'interdisais de dire que tu avais perdu ton conjoint. Comment tu te présentais, finalement ?
On en parlait avant l'interview. C'est vrai que quand j'ai essayé de me remettre à rencontrer du monde pour des relations sentimentales ou autres, ça a été un petit peu plus. Une célèbre application de rencontre invisibilise totalement ce statut, parce que dans le statut des relations, le statut veuf n'existe pas. Donc pour se présenter, pour pouvoir se décrire, c'est déjà un peu compliqué, parce que même si on n'était pas marié ou même si on n'était pas paxé, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble et moi je me considérais comme veuf et j'avais besoin de, si on me demandait, en dehors des applications, si je rencontrais des gens, si on me demandait si j'étais célibataire ou quoi que ce soit, même pas dans un jeu de séduction ou quoi, je disais que j'étais veuf, quoi. Et donc ça, c'était pas possible sur les applications. Et puis les premières fois, c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi parce que j'étais pas prêt. C'était quelque chose dont je parlais très vite, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que ça se sache. Et puis c'est pas que je le cachais, mais j'attendais un petit peu de qu'on me pose la question. Avant de tout lâcher comme ça. Non, par contre, je l'ai jamais caché, ou j'ai jamais essayé de d'oblitérer ça, parce que ça fait partie de moi et je peux pas vraiment faire autrement. Donc si on me posait la question, oui, effectivement, j'étais veuf, quoi.
Alors, dans le deuil, il y a le manque, mais parfois aussi une forme de continuité, quelque chose qui reste et qui accompagne. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à continuer, à tenir, à avancer ?
Ce qui m'aide à avancer, c'est de savoir que j'ai pas de regrets vis-à-vis de cette relation que j'ai pu avoir. On se cachait rien, donc j'ai pas de phrase du type si je lui avais dit ça, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça. Je suis totalement en paix avec ça. Et puis l'entourage, encore une fois, l'entourage, mes amis, la famille, et puis une nouvelle relation aussi, ça aide pas mal.
Et donc cette nouvelle relation, donc ce nouveau copain que tu as aujourd'hui, donc j'imagine que tu as abordé le sujet, puisque
oui,
on voit bien Victor,
bien sûr,
il est présent avec
oui,
toi, on le sent,
oh bah oui,
on sent qu'il est, on pourrait même presque dire qu'il est à côté de toi. Comment ça se passe ? Comment il aborde ? Est-ce qu'il accepte le fait que vous ayez presque une vie à trois, si j'ai envie de dire comme ça ?
Il le prend bien, j'imagine, parce que on est encore ensemble, donc c'est que ça va. C'était pas forcément tous les jours facile, surtout au début de la relation, c'est des deux côtés, du sien comme du mien, parce que c'est aussi c'était la première personne avec qui je me remettais vraiment en couple après Victor, donc c'était j'ai pas recherché évidemment à faire un copier-coller de ma relation, mais comme tu le dis, je sens que Victor est toujours présent maintenant. D'ailleurs, que je me souviens maintenant quand il est décédé, que j'ai vraiment eu cette impression que il y avait vu qu'on était très fusionnel, tu vois, il y avait une idée avant son décès qu'il était. On s'était échangé une moitié de l'un de l'autre, et du coup il y a une partie de moi qui est clairement morte avec lui, et puis il y a une partie de lui qui continue de vivre en moi, et je le ressens vraiment comme ça. Et du coup d'accepter, comme tu disais là, d'un sens comme dans l'autre, moi il a fallu aussi que on accepte à un et demi, si je peux dire, une nouvelle personne dans mon quotidien. Et puis je pense que Saïd a fait aussi en sorte que d'accepter ça. Alors c'est pareil, c'est du temps, parce que il y a forcément plein des points en fait qui paraissent un peu naturels, ou même pas, on se pose même pas la question dans une relation standard, même si j'aime pas trop dire ce mot là, mais en tout cas une relation qui a pas vécu ça, quoi. et c'est vrai que ça peut paraître naturel et couler de source, et puis pour moi non, ça c'était pas le cas, donc ça c'est aussi un peu, ça permet aussi un peu de remettre les choses à plat, et puis de dédramatiser pas mal de choses. Ça m'a permis aussi de De dédramatiser pas mal de trucs et de retrouver une sorte de paix et d'équilibre sur des questions qui me paraissaient insurmontables. En
fait. Et alors, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui traverse aujourd'hui un deuil similaire et qui ne sait pas s'il a le droit de le vivre pleinement ?
Alors, il faut le vivre pleinement. Il faut pas du tout se brider sur quoi que ce soit, parce que sinon, enfin, selon moi, hein, c'est vraiment aller la tête dans le mur si on fait ça. Il n'y a aucune émotion qui est illégitime dans le deuil. En plus, donc, en fonction du lien que la personne peut avoir avec la personne, parce que bon, là, je l'applique à mon compagnon, mais bon, Le deuil de son enfant ou autre, c'est des relations à chaque fois qui sont hyper spécifiques, donc ben il y a pas de mauvaises idées à avoir sur le deuil. Tout doit être exploré et doit l'être, oui, vraiment doit l'être, parce que c'est ça qui fait qu'on ira mieux. On parle souvent des fameuses cinq étapes du deuil, donc comme quelque chose d'assez binaire. Voilà, on doit passer de la tristesse au déni, à l'énervement. Alors ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, en tout cas, selon mon expérience, ça se passe pas du tout comme ça. On passe par ces étapes-là, mais c'est pas parce que on vient de passer à une autre étape que l'étape précédente est terminée. En fait, on navigue entre ces étapes-là, et ce n'est pas régresser de retourner dans une étape qu'on pensait terminée. C'est les joies de la psyché humaine.
Si tu pouvais passer un message, une idée à celles et ceux qui écoutent, qu'est-ce que tu aimerais qu'on comprenne mieux sur ce que c'est traverser un deuil queer ?
Eh ben, traverser un deuil queer, c'est d'abord traverser un deuil, et c'est toujours compliqué. Il y a personne qui peut vous dire comment le traverser. On peut vous conseiller. Il faut surtout être attentif aux personnes qui nous entourent et aux personnes bienveillantes, celles qui nous veulent du bien. Il faut bien les écouter, il faut ne pas hésiter à s'entourer. Il faut s'entourer, absolument. C'est primordial. On ne peut pas y arriver tout seul, parce que le cheminement pour aller mieux, selon moi, bah, c'est déjà très, très solitaire. Et il nous faut de l'intervention extérieure, donc quelle qu'elle soit. Il faut des amis, de la famille, des professionnels de santé. Il y a plein de structures, parce que bon, si on n'a pas forcément les moyens de consulter pour ce genre de choses, il y a aussi des structures gratuites qui proposent de l'aide et de l'accompagnement pour ça. Et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et puis, ben, petit conseil personnel aussi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer des activités qui ne me rappelaient rien de la relation que j'avais pu avoir. Par exemple, je me suis mis à faire du sport après son décès, et ça m'a permis en fait de m'approprier ça, et c'était clairement une activité où je pouvais pas penser à lui, parce qu'on avait rien en commun avec ça. Et puis en plus, le sport, voilà, ça, on pense qu'à ça quand on en fait, donc ça vide bien la tête. Mais je pense que ça peut marcher avec n'importe quelle activité. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont en dehors du cercle qui pouvait être là avant. Donc ça peut être intéressant aussi d'essayer de s'extraire de ça, parce qu'on peut vite rentrer dans une sorte de spirale. Donc essayer de trouver une petite activité à faire, une nouvelle activité, ça ne peut faire que du bien.
Eh bien, Alexis, merci pour ta parole.
Et merci à toi.
Merci pour la confiance que tu nous as faite en partageant ton histoire. On espère que ton témoignage aidera d'autres personnes à se sentir un peu moins seules, un peu plus légitimes aussi dans leur chagrin. Parce que oui, les deuils LGBTQIA+ existent et ils comptent. Merci à toi, merci à vous qui écoutez, et à bientôt sur la radio Queerazio.